Bonjour à tous, il est 12h30 sur France Culture et tout de suite c'est l'heure du journal de la rédaction présenté par Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Maïlys Bessery, bonjour à toutes et à tous. Les tractations sur le partage des postes à pourvoir à la tête des principales institutions européennes se poursuivent ce matin et après une nuit blanche, infructueuse, il semble qu'un compromis soit sur la table, même si la situation reste encore très volatile. Les critiques fusent depuis la signature vendredi dernier de l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur, en particulier s'agissant de son impact sur les filières agricoles et l'environnement. Des dizaines de morts et plus d'une soixantaine de blessés, c'est le dernier bilan d'une attaque au camion piégé à Kaboul ce matin, et ce alors même que talibans et américains sont actuellement en pourparlers de paix à Doha. Enfin, à Hong Kong, le 1er juillet marque traditionnellement l'anniversaire de la rétrocession de l'ancienne colonie britannique à la Chine. C'est aussi depuis 2003 l'occasion d'une marche pour la démocratie. Ce matin, des manifestants hostiles au gouvernement pro-Pékin ont tenté de pénétrer dans le parlement local. Parce que dans les arcanes de l'Union européenne, on ne compte plus ces nuits blanches de négociations, desquelles n'émergent bien souvent rien d'autre que des pages blanches elles aussi, qu'il semble difficile de se montrer mu par un quelconque optimisme, même salutaire, ce matin quant à la capacité des dirigeants européens à surmonter leurs dissensions pour accoucher enfin des noms des principaux dirigeants des institutions communautaires pour les 5 années à venir. Et pourtant, il semble bien ce matin qu'un compromis soit en train de se dessiner. Angélique Bouin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Bruxelles. Alors après que ce matin encore, l'hypothèse de la tenue d'un énième sommet pour sortir de l'impasse eût été avancée, eh bien il semble que les 28 soient donc sur le point de voir la lumière tout au bout du tunnel. Du moins, c'est ce qu'on espérait, Angélique, jusqu'à ce qu'on apprenne il y a quelques minutes seulement que le sommet était suspendu jusqu'à demain.
Eh oui, on vit vraiment une nuit, une matinée bruxelloise à rebondissement. À 6h45 ce matin, le Premier ministre italien Giuseppe Conte confiait qu'il n'y avait à ce stade pas d'accord. Mais depuis 8h, les 28 chefs d'État et de gouvernement étaient de nouveau réunis autour de Donald Tusk, le président du Conseil, qui a mené de difficiles négociations toute la nuit avec les uns et les autres. Et puis, il y a quelques minutes, en effet, on a appris que le sommet était suspendu et reprendrait demain à 11h, ce qui est tout de même bon signe sur l'obtention d'une négociation favorable, enfin qui se terminerait. C'est un véritable marathon. Au terme duquel un compromis en fait semble se dessiner sur le principal poste, même s'il reste volatile selon une source européenne. Et c'est le néerlandais Frans Timmermans, chef de file des socialistes européens, qui pourrait finalement succéder à Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne. Il avait pourtant subi hier un tir de barrage en règle de la part d'une bonne partie des dirigeants de la droite européenne, mais ces derniers auraient obtenu certains des autres postes clés convoités, dont celui du Conseil. C'est le retour du compromis esquissé à Osaka dont on parlait ce matin après, tenez-vous bien, près de 20 heures de négociations. Alors va-t-on arriver à un accord demain sur ces noms? On ne le sait pas. Ce que l'on sait, c'est que le président français et la chancelière allemande estiment que ce sommet doit aboutir et feraient pression sur leurs homologues pour accoucher de ce mercato.
Merci Angélique Bouin en direct de Bruxelles. Après plus de 20 années de négociations, une trentaine de réunions et presque autant d'accords abandonnés, voire enterrés, plus personne n'imaginait sans doute que l'Union européenne et les pays du Mercosur ne parviennent un jour à s'entendre sur un accord de libre-échange. Ou quand le revirement aura été assez soudain vendredi dernier, lorsqu'on a appris que les deux parties étaient finalement parvenues à s'entendre sur un traité prévoyant rien de moins que la suppression de plus de 90% des taxes que s'imposaient jusqu'à présent les deux continents sur l'importation de leurs produits respectifs. Marie Viennot, bonjour.
Bonjour.
Alors des deux côtés de l'Atlantique, on souligne donc aujourd'hui l'importance de ce traité, en particulier face au protectionnisme mis en place par les États-Unis et la Chine, sauf que la satisfaction affichée par les signataires de ce texte, Marie, se teinte tout de même de plusieurs réserves.
Oui, la plus grande de ces réserves, c'est qu'on ne connaît pas le détail de l'accord politique qui a été scellé vendredi. On n'en trouve pas la trace sur le site de la Commission européenne et la porte-parole de l'Élysée reconnaît elle-même que la France ne l'a pas quand elle dit « ce qui est important, c'est de connaître dans le détail le contenu de ce traité de liberté de libre-échange, en particulier pour les filières fragiles comme le sucre ou le bœuf ». Comme toujours, c'est dans les détails que se cache le diable et donc sans texte juridique. Pour le moment, c'est parole contre parole. Les commissaires européens au commerce et à l'agriculture disent via un communiqué tout le bien qu'il y a à attendre de cet accord pour les secteurs industriels, agroalimentaires européens. Ils assurent que la sécurité alimentaire, l'accord de Paris sur le climat et les objectifs de développement durable ont été pris en compte, mais comment, avec quels termes juridiques, quelles mesures de sauvegarde si des importations déstabilisent une filière ou ne sont pas compatibles avec les normes européennes. Ça, on ne sait pas. D'où la défiance des ONG opposées à ces accords de libre-échange, de syndicats agricoles, des députés européens du groupe socialiste et démocrate, de Nicolas Hulot, qui doutent des garanties obtenues par l'Union européenne et se scandalisent aussi sur le principe que l'on scelle un accord avec le Mercosur et donc le Brésil, pays dont l'engagement sur l'accord de Paris est très fluctuant depuis l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro. En fait, ce qui distingue réellement aussi ceux qui louent cet accord et ceux qui le redoutent, c'est la confiance accordée aux engagements dits annexes, c'est-à-dire environnementaux et sociaux, qui sont pris dans les accords de libre-échange.
Merci Marie Viennot. Alors parmi ceux qui voient d'un mauvais œil ce traité de libre-échange, vous l'avez dit, on trouve notamment les agriculteurs européens, et plus particulièrement d'ailleurs les producteurs de viande, mais aussi les écologistes. Et parmi eux, il en est un qui n'aura pas ménagé sa peine ce week-end pour dénoncer vertement cet accord, c'est Nicolas Hulot, pas moins de 3 entretiens dans la presse au total pour critiquer un accord antinomique, selon lui, avec la lutte contre le dérèglement climatique. Frédéric Seix, bonjour.
Bonjour Thomas.
L'ancien ministre de la Transition écologique semble donc à nouveau parti en guerre, cette fois-ci contre la mondialisation en général et plus particulièrement contre ces traités de libre-échange qui seraient, selon lui, la cause de toute la crise que nous vivons.
Il est fini le temps où j'arrondis les angles. Cette fois, j'en ai ras-le-bol. Dans cet entretien au Monde, Nicolas Hulot démontre effectivement point par point l'ineptie de ce traité, selon lui, en regard avec l'accord de Paris et plus largement avec le sauvetage du climat. L'ancien ministre cible en particulier le Brésil, membre du Mercosur. Il relève que le président Bolsonaro saccage la forêt amazonienne, je cite, la forêt amazonienne qui représente, selon lui, 10 années de compensation des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Nicolas Hulot poursuit « Je ne vois pas comment on peut, sur un enjeu essentiel, signer un accord avec un pays qui bafoue à ce point nos objectifs. On n'est pas dans la cohérence », dénonce-t-il, en appelant à relocaliser une partie de nos économies, à rebours donc de ces traités commerciaux. Ce qui est intéressant, c'est que Nicolas Hulot n'est pas le seul à déplorer cet accord au sein de la majorité, ou disons des proches d'Emmanuel Macron. Pascal Canfin, l'eurodéputé tout juste élu en deuxième position sur la liste macroniste, fait lui aussi part de ses réserves. Il promet d'examiner en détail le texte, mais le vote des eurodéputés En Marche n'est pas acquis, prévient-il. Pour mémoire, Pascal Canfin était l'une des prises de guerre écologistes, entre guillemets, d'Emmanuel Macron. Il est pressenti pour devenir le prochain président de la commission environnement du Parlement européen. Autre opposant issu des partisans d'Emmanuel Macron, Jean-Baptiste Moreau, député La République En Marche, lui-même agriculteur. Son argument rejoint en partie celui de Nicolas Hulot et Pascal Canfin. Selon lui, ce traité de libre-échange va faire entrer en Europe des productions qui utilisent des pesticides interdits par nos législations. C'est donc une concurrence déloyale pour les paysans français. Une dernière précision sur ces voix qui s'élèvent. Effectivement, on est pour l'instant dans un jeu de positionnement presque à l'aveugle, puisqu'aucun des protagonistes n'a pu lire le détail du texte, secrètement négocié comme d'habitude par la commission. Ses opposants espèrent donc que la publication de l'accord renforcera leur position. Elle est en tout cas bien loin de la parole du chef, Emmanuel Macron, qui juge, lui, que cet accord du Mercosur est un bon accord.
Merci Frédéric Seix. Parce que la scène était inédite, le moment était aussi historique. Hier, Donald Trump est donc devenu le premier président américain en exercice à fouler le sol de la Corée du Nord. Reste désormais à savoir si le chef de la Maison Blanche n'aura fait par là qu'entrer dans l'histoire ou s'il compte bien également en écrire une nouvelle page, car cette visite surprise annoncée à l'improviste était surtout la 3e rencontre organisée entre les deux hommes après un premier sommet présenté également comme historique mais qui n'avait pas permis d'aboutir à un accord final, puis un second que l'on qualifiera lui sans peine de catastrophique au cours duquel les deux délégations avaient même dû se séparer plutôt que prévu après avoir à nouveau constaté leur lourd désaccord. En d'autres termes, si Donald Trump et Kim Jong-un ont certes franchi ensemble hier la ligne de démarcation entre les deux Corées, il serait sans doute prématuré d'y voir un pas de géant vers une dénucléarisation rapide de la Corée du Nord. En visite la semaine dernière à Kaboul, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo avait dit, lui, espérer un accord de paix avec les talibans avant le 1er septembre. Sauf que l'explosion ce matin d'une voiture piégée, explosion qui a fait des dizaines de morts et au moins 65 blessés, suivie par ailleurs de l'irruption d'assaillants armés dans un bâtiment du centre de la capitale, donne une sinistre mesure du chemin qui reste à parcourir avant de trouver une issue définitive au conflit en Afghanistan. Samedi dernier déjà, la reprise des pourparlers à Doha entre Américains et Talibans avait d'ailleurs coïncidé avec une autre attaque sanglante qui a coûté la vie à au moins 25 membres de milices pro-gouvernementales. Les précisions de la correspondante de RFI pour France Culture dans la région, Sonia Ghazali.
Des personnes au visage ensanglanté transportées par des passants sur leur dos, des enfants aux cuisses et aux mains enserrées dans de larges bandages, des proches en larmes aux portes des hôpitaux, quelques minutes après l'explosion qui a secoué le centre de Kaboul. C'est la panique et la désolation dans les rues. L'explosion du camion piégé a laissé un énorme cratère noir dans le sol à quelques mètres de l'ambassade des États-Unis, située dans la zone verte. C'est le centre de logistique et d'ingénierie du ministère de la Défense qui a été pris pour cible. Des assaillants se seraient dissimulés dans un bâtiment construction juste en face. Le musée de l'armée qui se trouve à côté s'est à moitié effondré, tout comme l'école élémentaire du quartier de Poli Mahmoud Khan. Plusieurs élèves se trouveraient parmi les victimes, tout comme plusieurs employés de la fédération de football, dont le siège est situé à quelques mètres de l'endroit où le véhicule a explosé. Cette attaque intervient au troisième jour d'une rencontre à Doha, au Qatar, entre l'émissaire américain pour la paix en Afghanistan et des représentants talibans. Il s'agit du 7e round pour parler de paix, qui n'inclut toujours pas des membres du gouvernement afghan. Les talibans refusent qu'ils y participent parce qu'ils ne reconnaissent pas leur légitimité. 4 points doivent être discutés au cours de cette nouvelle rencontre. Le retrait des troupes étrangères, la garantie que l'Afghanistan ne devienne pas un refuge pour les terroristes, l'instauration d'un cessez-le-feu ainsi que l'ouverture d'un dialogue inter-afghan. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, en visite à Kaboul la semaine dernière, avait dit espérer un accord de paix avant le 1er septembre. Irréaliste, ont réagi plusieurs observateurs internationaux.
Si le sommet du G20 qui s'est achevé samedi dernier aura surtout consacré le cavalier seul du président américain Donald Trump, tant sur le commerce que sur le climat, la signature en grande pompe d'une déclaration finale avait toutefois laissé entrevoir l'espoir que le multilatéralisme n'était pas encore totalement mort. Dans cette déclaration, les participants disent reconnaître l'urgence de traiter des problèmes globaux, complexes concernant l'environnement et notamment la perte de biodiversité. Or, 2 jours plus tard, et sans craindre donc la contradiction, voilà que le Japon, le pays hôte de ce sommet, décide de relancer à partir d'aujourd'hui la chasse commerciale à la baleine. Alors dans les faits, il n'y avait jamais totalement renoncé puisqu'il pratiquait jusque-là ce qu'il qualifiait de pêche à des fins scientifiques, une manière de contourner en somme le moratoire en vigueur depuis 1986. Et puis surtout, la relance officielle de cette activité suit le retrait du Japon il y a 6 mois de la Commission baleinière internationale, l'organisme chargé de protéger les populations de cétacés. Si en ce 1er juillet, date anniversaire du retour de Hong Kong dans le giron chinois, les démocrates de tous bords ont pour habitude de manifester pour mettre en avant leurs exigences démocratiques. Le rassemblement annuel prévu ce lundi s'annonçait particulier dans la continuité de plusieurs semaines de protestations sans précédent contre le gouvernement local pro-Pékin. Et ce matin, des heurts ont donc opposé des milliers de manifestants avec les forces de l'ordre, lesquels ont fait usage de bombes lacrymogènes pour disperser certains contestataires, pour la plupart des étudiants, et qui tentaient de pénétrer dans le Parlement. C'est un reportage sur place signé de notre correspondante Florence de Changy.
C'est d'ores et déjà un 1er juillet chaotique à Hong Kong. Les échauffourées violentes entre police et manifestants ont commencé à l'aube autour du Parlement et cela a sans doute eu pour effet de diminuer le nombre de participants à la Grande Marche qui est encore loin d'être terminée mais qui ne battra sans doute pas le record historique des 2 millions de participants du 16 juin. À l'avant du cortège, un jeune artiste photographe de 27 ans, Kit Tang, a entendu parler des violences au Parlement. Il hausse les épaules et regrette ces débordements, mais il ne les condamne pas.
C'est leur façon de faire, de mon point de vue, parce que le gouvernement ne nous écoute pas, il y a des gens qui deviennent violents. En France, vous avez le mouvement des Gilets jaunes chaque semaine qui est violent. Nous, à Hong Kong, on est tellement paisibles. Nous sommes très faibles, nous n'avons pas d'armes. On n'est pas des émeutiers. On montre simplement notre opinion au gouvernement, mais ils n'écoutent pas.
Lors de la cérémonie officielle du lever de drapeau lundi matin, Carrie Lam a fait amende honorable sur sa manière de gouverner, mais elle n'a rien cédé aux manifestants, une manière certaine de ne pas désamorcer la crise.
Eux aussi entendaient manifester à l'occasion de la date anniversaire d'un événement qu'ils préféreraient voir rayé de leur histoire, 30 ans jour pour jour après le coup d'État qui avait porté Omar al-Béchir au pouvoir. Les Soudanais sont massivement redescendus dans la rue hier pour réclamer une fois encore un transfert du pouvoir aux civils, une démonstration de force qui a fait 7 morts et plus de 180 blessés. On termine avec un mot de météo. Si le soleil dominera encore largement autour de la Méditerranée, le long de la vallée du Rhône, partout ailleurs, le ciel hésitera entre éclaircies, passages nuageux avec quelques averses averses parfois orageuses dans le centre et l'est du pays. Quant aux températures comprises généralement entre 20 et 39 degrés, elles seront davantage supportables dans bon nombre de régions, excepté dans le sud-est où 13 départements sont toujours placés en vigilance orange. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.